8h52 sur France Culture. Hervé Gardette, bonjour.
Bonjour Guillaume Herner.
Ce matin, alors que les manifestations antiracistes se poursuivent, vous nous parlez de leur lien avec les luttes environnementales.
Il y a un an, une partie de la jeunesse mondiale manifestait pour la défense du climat. Aujourd'hui, elle marche contre le racisme. Alors bien sûr, ce ne sont pas exactement les mêmes qui s'expriment. Et par ailleurs, on ne peut pas réduire ces mouvements à une seule question générationnelle. Il n'empêche que ces mobilisations semblent participer d'un phénomène de conscientisation de la jeunesse. Alors certains y verront peut-être une forme d'éparpillement des luttes, dans la mesure où, à première vue, les deux sujets n'ont rien à voir. Contrairement au racisme, le changement climatique ne fait pas de tri. Il touche tout le monde de manière indiscriminée. C'est un combat nécessairement universel puisque nous sommes tous concernés. Sauf que nous ne sommes pas tous concernés de la même façon. L'exposition aux risques environnementaux se manifeste de manière inégale, en fonction des territoires bien sûr, mais aussi des caractéristiques des populations qui y habitent. Les plus pauvres sont les plus vulnérables, pour reprendre la formule de La Fontaine dans Les animaux malades de la peste. Selon que vous serez puissant ou misérable, vous ne subirez pas les effets du changement climatique de la même manière. Alors le constat qu'il existe des inégalités environnementales ne date pas d'hier. Le concept émerge aux États-Unis à la fin des années 60. Il documente le fait que certains groupes sociaux sont discriminés à la fois dans l'accès aux ressources, comme par exemple l'eau, et à la fois par rapport à l'exposition aux nuisances et à l'insalubrité. Or, il se trouve que les minorités ethniques y sont surreprésentées, d'où la notion de racisme environnemental. Voilà le point de convergence que j'évoquais plus haut. Alors l'exemple qui vient en premier à l'esprit est celui de l'ouragan Katrina en 2005. La ville de la Nouvelle-Orléans se retrouve sous les eaux. Parmi les sinistrés, la plupart sont des Noirs. Ils vivent en zone inondable. Les Blancs, eux, sont sur les hauteurs. La lenteur de la réaction de l'administration Bush va conforter cette idée d'un deux poids, deux mesures. Autre exemple, celui de la ville de Flint, dans le Michigan, toujours aux États-Unis. Une crise sanitaire y éclate en 2014. L'eau potable est contaminée au plomb. Le fait qu'une majorité de victimes soient noires ne prouve rien, dans la mesure où à Flint, les Afro-Américains sont majoritaires. Mais il faut attendre 2 ans pour que le gouverneur de Michigan déclare l'état d'urgence sanitaire, ce qui inspire cette question au New York Times. Si Flint était riche et majoritairement blanche, l'État n'aurait-il pas réagi plus rapidement? Or, cette notion de racisme environnemental est délicate à manier, car complexe à démontrer. Le racisme suppose un caractère intentionnel. Or, comme le relève en guise d'exemple le dictionnaire de la pensée écologique, la présence simultanée d'industries polluantes et de minorités ethniques ne signifie pas nécessairement que les populations sont victimes de racisme, puisque cela dépend de leur dynamique d'installation. L'arrivée des populations après celle des industries peut s'expliquer par leur pauvreté économique. Discrimination sociale, oui. Discrimination raciale, pas forcément. En France, si la crise du Covid-19, comme le disait tout à l'heure Françoise Vergès, a mis en lumière des discriminations de cet ordre à travers le cas de la Seine-Saint-Denis, cette notion de racisme environnemental est peu usitée. D'abord parce que nous n'avons pas la même approche décomplexée qu'aux États-Unis sur les questions ethniques. Ensuite parce que le mouvement écologiste y est sans doute moins sensible. Comme l'expliquait le politiste Daniel Bois samedi dernier dans Politique, la clientèle électorale de l'écologiste se recrute dans les grandes villes universitaires davantage que dans les quartiers populaires. Alors au final, si la lutte contre le racisme et celle pour le climat et l'environnement convergent, c'est peut-être moins dans leur dimension idéologique que symbolique. Comme le souligne le site Reporter, qui vient de consacrer un article à ce sujet, les mots prononcés par George Floyd avant de mourir étouffé résonnent d'une étrange manière si l'on pense à notre avenir sur cette planète. I can't breathe, je ne peux pas respirer.
Merci Hervé Gardette.